Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui au programme, nous allons recevoir le metteur en scène Maxime Carbonneau, la pièce de théâtre Les Murailles qui se joue à la Licorne jusqu'au 2 avril. Ensuite, eh bien, nous aurons notre chroniqueuse Louise Véronique Sicotte, notre chroniqueuse cinéma, qui sera avec nous pour nous parler de deux films. Un documentaire Soigner l'esprit de Catherine Mullins et le film Un monde de Laura Vandel, un film belge qui fait déjà beaucoup parler de lui sur l'intimidation scolaire. Donc pour l'instant, eh bien, nous partons en cette belle journée avec Stromae qui nous chante « Bonne journée ».
Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le réveil est facile, le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie. Sentiment universel, dehors il fait soleil et dedans aussi. Comme une journée d'anniversaire de 0 à ses 35 ans, mon style est clinquant. Je sais même plus trop comment j'ai fait, je suis frais comme si j'avais 20 ans. Tu sais ce que ça fait? Non, c'est indécent, je rigole pour rien, je souris bêtement. La vie est biscuit, comme une journée de déconfinement. Non merci, mon verre est à moitié rempli. Y'a les jours sans, les jours avec, ce sera avec ce coup-ci. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le bonheur est bien la seule chose qui, quand on la partage, se multiplie. Je vois la vie en rose, dis-moi, est-ce que tu la vois aussi? Si le bonheur des autres te rend malheureux, c'est que t'es un rageux. Si le malheur des autres te rend heureux, c'est que t'es un rageux. T'as peur d'être triste quand t'es joyeux, et tu veux être joyeux quand t'es triste. Tu profites jamais vraiment de ce moment présent, en fait t'es juste dépressif. Tout ce que je sais c'est que s'il se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière lui. Et s'il est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage viennent les éclaircies. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts. Et parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Y'a pas de débat d'idéaux, non. Comme un idiot fait des pas de la danse de la joie. C'est la danse de la joie.
Alors, notre invité n'est pas tout de suite avec nous. On le cherche, voilà. Donc, en attendant, ben, on va parler du premier roman d'Éric Assoucy qui s'appelle Les Murailles et qui sont sur la scène en ce moment à la Licorne jusqu'au 2 avril. Donc, l'histoire du roman, ben, ça s'articule autour du sujet. La narratrice donc, est une jeune poète. Une jeune fille qui a été, il semblerait en tout cas, souvent privée de la présence de son papa à cause du travail, puisqu'il travaillait à la Romaine pour travailler sur les grands chantiers d'Hydro-Québec, donc il n'était pas souvent là. Alors, elle va à sa recherche, elle décide de partir jusqu'à son lieu de travail pour aller à sa rencontre, et puis pour peut-être en apprendre un petit peu plus sur lui. Alors, on va savoir dans un instant avec Maxime Carbonneau qui lui a fait la mise en scène de cette pièce. Alors, une mise en scène qui est relativement sobre et dont je souhaiterais en discuter avec lui si nous arrivons à le joindre. Mais dans l'instant, on va repasser une deuxième chanson et puis je vous reprends tout de suite après ça. Voilà, donc on l'a toujours pas trouvé. Eh ben, on va simplement parler de la pièce Les Murailles. Donc, entre nous, voilà, on va en parler. Donc on a notre recherchiste Catherine Bourderon qui est avec nous et elle va me poser un peu. Alors c'est moi qui vais faire l'entrevue, tiens, à la place de Maxime Carbonneau, même si je suis pas le metteur en scène. Et me demander, puisque j'ai vu cette pièce, ce que j'en ai pensé et comment ça s'est passé. Voilà. Alors,
bonjour,
vas-y.
Je suis vraiment contente d'être avec vous.
Bon, merci. Merci de m'aider pour ça.
Mais on aime le théâtre tout et tout, donc ça va. C'est cool.
Oui, ça va se passer.
Donc, cette pièce-là, elle a eu lieu à quel endroit?
Alors, elle a lieu. Elle a lieu en ce moment même, à la Licorne. Elle joue jusqu'au 2 avril. Et dans l'histoire. La personne, Erika Soucy, qui a écrit, c'est son premier roman, elle écrit, c'est le rôle d'une jeune fille, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui écrit des poèmes.
Okay.
Et puis qui a vécu dans une famille où son père a été relativement absent. Elle l'a beaucoup aimé, elle aimait beaucoup quand il revenait, mais c'était très rare parce qu'il travaillait sur des chantiers Hydro-Québec dans le Nord, donc très loin et très longtemps.
Donc elle écrivait de la poésie, elle écrit de la poésie.
Elle écrit de la poésie, puis elle décide, au moment où elle a son premier enfant, eh bien justement, peut-être pour ne pas perdre le lien avec son enfant comme elle l'avait perdu avec son père, avec son papa, d'aller à la rencontre de son père, d'aller voir sur les chantiers comment ça se passe et pourquoi il a été un père aussi absent.
Ok, donc au centre de la pièce, il y a le père absent, il y a la poésie. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans cette pièce, au juste?
C'est que... Alors, c'est quelque chose qu'ont vécu beaucoup de Québécois, de connaître des gens qui allaient travailler sur les chantiers d'Hydro-Québec. Moi, c'est très loin, j'ai jamais vécu ça. J'ai été surprise par la rudesse des hommes qui étaient là-bas, par le fait que quand on voit le personnage du père, il est vraiment très... Je vais employer une expression, il est bourru et bourrin. On dirait qu'il a des idées, il a des idées toutes faites sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, à qui on doit parler, à qui on ne doit pas parler, ce que valent les personnes et tout, comme un début de racisme, enfin tu vois, des choses comme ça. Ça m'a gêné. Et en même temps, traversé par la poésie de l'écriture, du fait que c'est sa fille qui le regarde et qui décrit tout ça. Et d'autres personnages masculins, d'ailleurs, qui sont là, puisqu'elle est la seule... Non, il y a une femme qui est là aussi. Vue par elle, traduit par elle, en tout cas, de la façon dont elle l'a écrit, ça rend ce personnage presque tendre, alors que c'est quelqu'un qui se tait, qui ne sait pas raconter, qui ne sait pas être affectueux, qui a des idées toutes faites. Tu vois, c'est déjà le portrait d'un homme difficile.
Mais
au
on
départ.
Parle d'un homme des années 50, 60, certes. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2022, la figure paternelle a changé lorsqu'on parle d'une fille aujourd'hui pourrait-elle...
Je l'espère grandement. Mm-hmm. Tu sais quoi, je l'espère grandement que ça a changé. Puis je me dis que oui, quand même, il y a plein... Puis tout, même à cette époque-là, tous les hommes n'étaient pas pareils. Celui-ci est de cette manière. Je pense que ça ne l'empêche pas d'aimer ses enfants, parce qu'il a également un fils qu'on voit dans la pièce, mais je ne vais pas tout le raconter, je vous laisse le plaisir d'y aller. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, d'ailleurs, livre qui a été lu ici, à Vues et Voix. Voilà. Et,
la pièce a lieu où, au juste? À quel endroit elle a lieu, cette pièce?
Au théâtre à la Licorne.
À la Licorne, oui. Donc jusqu'à quand?
C'est jusqu'au 2 avril.
Jusqu'au 2 avril. Et qu'est-ce que tu as pensé de la mise en scène?
Ben moi, j'ai aimé parce que la mise en scène était super sobre, en fait. Je pensais qu'on allait voir des images du Nord, de ce qui se passe. Non, il a réussi en mettant, en plaçant les personnages sur la scène du théâtre, il a réussi à nous donner des images dans la tête. On avait l'impression d'être dans la voiture, on avait l'impression d'être dans la chambre super étroite, la petite cabine étroite où elle dormait, on avait l'impression d'être au froid en train d'attendre. C'était très... C'est bien fait. Et puis c'est pas si facile que ça.
Absolument.
De faire une mise en scène sans rien avoir presque sur la scène.
Et la réaction du public, elle était comment?
Enchantée.
Ouais.
Enchantée, ils ont été applaudis, debout. Enfin, c'est une belle performance d'artiste.
Ok.
J'ai détesté... à plusieurs moments, le rôle du père, pour te dire à quel point c'est bouleversant et ça vient de chercher, ça vient toucher les personnes qui sont là. Il y a d'autres hommes qui sont là autour, qui sont en manque de femmes aussi, qui essayent de se rendre un petit peu mieux qu'ils ne sont. Mais en même temps, c'est touchant, c'est gentil. Il y a même des endroits où ça m'a fait sourire, mais la plupart du temps, j'ai trouvé que c'était assez dur. La vie qu'ils ont menée.
Absolument. En quoi cette pièce est avant-gardiste?
J'en sais rien, parce que je ne sais pas ce que chacun entend sur le thème avant-gardiste. Alors,
mais qu'elle change,
sais pas,
qu'elle bouscule les valeurs. En quoi elle tranche?
Moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que c'est écrit par une femme. C'est une femme qui est poète. Et c'est écrit là-dessus. Donc, d'ailleurs, on a la possibilité d'avoir la personne qui a écrit la pièce, donc Erika Soucy, qu'on peut joindre. Donc, qui sait, on va peut-être pouvoir la voir aussi.
Erika Soucy, donc celle qui a écrit la pièce, c'est la poétesse?
Oui, c'est elle qui a écrit la pièce et c'est ça qui est agréable aussi sur le... Sur cette histoire-là, c'est que de la façon dont elle a écrit, elle va être avec nous un petit peu. Alors, je vais pouvoir en dire un petit peu plus là-dessus. Son écriture, le fait que ce soit écrit par une femme, comme tu me demandais tout à l'heure, qu'elle ait une écriture très, comment dirais-je, c'est tendre et à la fois tranchant un peu et à la fois timide parce qu'elle ne sait même pas ce que pense vraiment son père d'elle. Elle n'a pas eu assez de liens forts pour savoir comment elle est reconnue. Et grâce à ça, ça donne une toute autre image de tous ces hommes solides.
Mais
qui
dans,
sont là.
Dans le processus de création, Arlette, on parle d'écrire du théâtre et on parle d'écrire de la poésie. Comment ça, ça amalgame tout ça dans le processus de création?
Ah bah tiens, on a Erika Soucy avec nous. Donc bonjour Erika.
Bonjour.
Désolée, je voulais parler plus de la mise en scène. J'ai adoré cette pièce.
Donc, c'est vrai, merci.
Catherine, notre recherchiste est avec moi pour en discuter un petit peu. Et elle était en train de me poser des questions sur ce que j'avais vu et compris. Et j'étais en train de lui dire à l'instant que le fait que ce soit écrit par une femme et cette vision-là adoucit ces hommes rudes et la vision d'un père que j'ai largement détesté pendant la soirée, mais que je comprends. Oui, parce que cet apport-là de l'homme qui est solide, mais qui est... J'ai envie de dire le mot bourrin, je ne sais pas si ça existe au Québec, mais qui ne parle pas beaucoup, qui n'arrive pas à noter ses sentiments, et puis qui a des idées très, très précises sur certaines choses, limite... Oui. Voilà.
Mais c'est pas seulement le père, hein, en fait. Je dirais que c'est le microcosme qui est un peu aussi sur ce ton-là. Il n'est pas tout seul là, à
oui,
être
oui.
comme ça,
non, non.
Dans ce monde-là qui est, tu sais, disons-le, sur certaines idées, ont encore du chemin à faire, là, pour le dire poliment.
C'est ce que Catherine demandait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mentalité-là a changé?
Ben oui.
Ben heureusement.
Non, mais c'est encore, tu sais, c'est sûr que je pense que par rapport aux commentaires, par exemple, c'est des gens qui vivent quand même, ils regardent les nouvelles comme tout le monde, là,
oui.
Donc ils sont conscients, tu sais, avec, je pense, suite à MeToo, il y a des choses par rapport à des commentaires qu'on ne peut plus passer sur le corps des femmes, mais je pense que ces commentaires-là existent toujours, mais on les fait en disant « Oh, on fait des blagues, puis aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ça », mais les mots sont prononcés
oui,
quand même.
C'est vrai.
C'est juste qu'on a une certaine conscience de ce qu'on dit qu'on n'avait pas avant. Mais,
oui.
Tu sais, pour être honnête, il y a ça dans le milieu de la construction, mais il y a ça aussi dans le milieu du théâtre.
C'est
ça
une légère...
Dans les bureaux.
C'est une très légère aussi. Couverture, hein, parce qu'on ne le dit plus, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la tête. Alors,
voilà.
Catherine a une question pour toi.
Erika, j'ai une question pour vous. Donc, vous êtes une poétesse et vous écrivez du théâtre. Dans le processus de création, comment on peut amalgamer ces deux genres quand vous couchez des idées?
Ce qui est intéressant avec le projet des Murailles, c'est que c'est la même histoire que j'ai écrit dans trois genres littéraires différents. J'ai d'abord écrit cette histoire-là en poésie. C'est mon deuxième recueil de poésie. D'ailleurs, c'est nommé dans la pièce que je viens à la Romaine pour écrire mon deuxième livre de poésie. Donc, ce livre-là a existé, il existe, il a été écrit, publié et tout. Après ça, j'ai écrit le roman « Les Murailles », comme je vous dirais 4 ans plus tard, suite parce que bon, la poésie, ça offre une grande liberté, mais ça a aussi ses limites. Moi, j'ai été témoin de plein de choses en allant à la Romaine. J'avais beaucoup d'anecdotes que j'ai écrites sous forme longue, donc en prose avec mon roman. Et après, ben, je viens du théâtre. J'ai une formation de comédienne, donc... Puis c'est un roman qui est écrit en oralité, donc qui est écrit comme on parle. Il y a énormément de dialogue dans le roman. Donc, on n'était pas si loin de la dramaturgie pour moi. Ce qui fait que c'est drôle parce que tout d'un coup, le théâtre est devenu le genre littéraire parfait pour marier ça, cette prose qui était plus romanesque et la poésie. Puis je trouvais que ben, c'est comme si c'était le pont vraiment entre les deux livres
oui.
qui ont été publiés.
Erika, donc vous avez deux amours, la poésie et le théâtre.
Ah, peut-être bien plus que ça.
Peut-être
bien plus que
ça. Puis c'est, chaque genre littéraire offre une possibilité.
Ouais.
Puis souvent, je vais commencer par la poésie parce que ben, j'aborde des sujets très intimes, très sensibles aussi. Et souvent, la poésie me donne du courage. Ça me permet de débroussailler les émotions, d'aller loin dans mes souvenirs, dans mes sentis, de coucher ça sur papier. Et après, ben c'est plus facile pour moi de le passer avec soit c'est ça, à la forme longue ou au théâtre, parce qu'il y a déjà un travail de dépouillement qui a été fait, puis après ça, on dirait que je me sens plus courageuse de plonger dans le sujet.
Alors, mais il y a aussi une sacrée bande de bons comédiens.
Ah, ils sont bons, hein?
Ah oui. Quand on a fait la critique hier de ça, on avait repris deux trois phrases qui avaient été lues dans le livre qui a été fait à Vues et Voix.
Oui, ok, oui.
Donc, il y avait certains morceaux de texte et j'avais repris un des seuls moments qui m'a fait plus rire, c'est l'histoire de la poésie.
Avec le personnage de Conrad.
Oui, Conrad qui est un personnage attachant et que on en a déjà tous un peu croisé.
Tout à fait, mais c'était quoi les chances de tomber sur un connaisseur avec des gros guillemets
de poésie
en allant à la Romaine. Donc même moi, quand j'ai vécu, je me rappelle exactement. C'est sûr que bon, c'est romancé un peu sur scène, j'en ai un peu plus que comment ça s'est déroulé pour vrai, mais reste que ça a été une sacrée belle surprise de découvrir que Conrad, ce commissionnaire, au travers de toutes ses histoires de vie, avait ça,
oui,
avait côtoyé Jacques Brault.
Alors l'autre chose qui m'a touchée, qui est venue me chercher aussi, c'était cette espèce de timidité qu'a le personnage féminin face à ce que peut penser son père. Elle n'a pas suffisamment de lien avec pour savoir s'il en a parlé, comment il en a parlé, qu'est-ce qu'il en pensait exactement. Et elle est comme tremblante un petit peu, hein, un petit peu sans savoir ce qui va vraiment se passer.
Oui, ben c'est. Vous voulez dire quand mon personnage part à la Romaine, c'est ce que vous voulez
oui,
dire.
Oui, non seulement quand il part, mais quand on dit à ce personnage-là, ah, ton père nous a parlé beaucoup de toi.
Oui.
Et puis là, le personnage répond, comment?
Comment il a parlé de moi, tu sais. Voilà.
Donc ça veut vraiment dire que les liens sont pas.
Ben, c'est l'impact du fly-in, fly-out, tu sais, c'est l'impact d'un père absent. C'est vraiment ça, c'est ce que ça crée comme relation émotive, familiale. Moi, je suis un produit de ce genre de vie-là, donc oui, c'est sûr que c'est ce que ça crée. C'est pas fabriqué, ça, c'est assez...
C'est assez vrai.
Là, cette incapacité à communiquer là, je pense que c'est pas pour rien que je suis allée vers la création pour essayer de... C'est sûr que inconsciemment, je pense que je voulais faire ça, mais consciemment, c'est sûr que c'est pas ça ma démarche.
Oui.
C'est pas ça ma démarche d'artiste. Mais reste qu'il y a quelque chose de très simple au niveau de l'enjeu principal, c'est réussir à se parler finalement.
Alors, reparlons avec toi, Erika, de la mise en scène, parce que tout à l'heure, j'en parlais avec Catherine qui me posait des questions, parce qu'elle n'a pas encore vu la pièce. Et donc, j'ai trouvé que la mise en scène, qui était extrêmement sobre, faisait en sorte, par le placement des comédiens sur cette scène, nous donnait l'impression d'avoir déjà les images. On se faisait comme des films, alors qu'au départ, je m'attendais à avoir... des images de la région, du coin, de ce qui se passait à ce moment-là.
Ben, je pense que c'est parce que c'est tellement difficile à représenter un grand chantier hydroélectrique, le Nord, tout ça. C'est un peu casse-gueule d'essayer de reproduire ça au théâtre. Donc, faisons confiance au public, puis on va suggérer des ambiances, on va essayer de recréer sur le pick-up, les explosions, la montagne, les aurores boréales. On a tout ça par l'éclairage et par une simple table de cafétéria. Mais c'est aussi, puis je pense qu'on n'est pas si loin du processus créatif de la littérature aussi. Là. Quand on lit, on fait le travail dans notre tête comme lecteur. Donc, je pense que la pièce conserve ça un peu, cette relation privilégiée avec le texte.
Oui, la fameuse table de cafétéria dont je n'en parlerai pas plus, il faut qu'on aille voir la pièce.
Qui devient plein de choses.
Oui, ça m'a horrifié cette scène de la table.
Ah oui.
Au départ, est-ce que tu sais où tu t'es assise, pourquoi tu t'assois là, et puis l'explication du pourquoi tu t'assois là m'a fait un peu dresser les cheveux sur la tête, mais...
mais oui, ben, c'est normal, c'est tout à fait choquant, mais bon, c'est parce que, disons-le, c'est raciste. Là. Il y a une scène qui dénonce, ben, tu sais, qui démontre en tout cas un racisme sur place là-bas. Je l'ai vécu. Écoutez, pour moi, je pouvais pas taire ça parce que c'est tellement gros. C'est choquant. Puis je pense que bon, mon opinion d'auteur par rapport à tout ça est assez claire aussi dans le spectacle. Mais reste qu'on a tous dans la vie été témoins de moments comme ça où on entend des propos racistes d'autres personnes. Puis on n'a pas toujours intervenu, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi, c'est mon silence de malaise. Tu sais, c'est le malaise qui se poursuit là aussi.
En quelques mots, parce que l'entrevue se termine sous peu. Oui. En quoi cette pièce est actuelle en 2022?
En tout cas, juste une petite parenthèse, c'est super bien écrit.
Ah, merci beaucoup.
Bravo.
En quoi c'est actuel en 2022? Ben, c'est actuel parce que ces gens-là existent encore, parce que ces rapports de pouvoir-là existent encore, parce que c'est encore la réalité de ma région. Donc oui, ça demeure actuel. Écoutez, c'est sûr que moi j'étais nerveuse en ce moment de présenter les murailles à Montréal avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec les convois de camionneurs, tout ça, parce que évidemment on se cachera pas que ce genre d'homme-là, ce genre de personnage-là était aussi beaucoup dans les médias dernièrement. Mais ça demeure des humains. Moi, je suis pas d'accord avec leur position, mais ça c'est moi aussi, c'est mon opinion à moi. La pièce parle pas de ça. Mais bon, en tout cas, je sens qu'on ressent beaucoup l'humanité quand même, même si ces personnages-là, même si ce père-là disent des choses qui n'ont pas d'allure, là, qui sont inacceptables.
Ouais, mais à travers le texte, on arrive, je suis arrivée à le trouver attachant. Alors, c'est pour te dire.
Bon.
Alors, c'était déjà ça. Alors, on va terminer sur une image aussi qui m'a bien amusée, c'est le fait que bon bah ces hommes-là vivent sont des hommes, sont très nombreux et j'ai bien aimé l'essai de séduction de celui qui l'amène à la romaine.
Ah ben c'est sûr que oui, ben là ça c'est oui, hein, les femmes on est en minorité puis on se fait aborder. En tout cas moi je me suis fait aborder beaucoup. Cela dit, j'ai eu des situations beaucoup plus gênantes dans des tours à bureau qu'à la romaine. Fait que c'est ça.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci Erika.
Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci.
Bonne continuation.
Bye.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
J'accuse la lune, accumule les lacunes, mon blues donne le ton, et tu donnes Le peintre enfile sa blouse, tu me files le blues, et Fella en est jalouse, tu me files le blues. La pluie chantonne Paris, c'est ça. J'ai toujours mal, mais je m'en sors. Mélancolique dans mon confort, j'arrête le spleen, Baudelaire est mort.
Allô, Louise Véronique.
Allô, Arlette.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, mais je t'entends la voix bien joyeuse pour deux films qui sont assez importants et lourds.
Oui, c'est vrai, mais...
Mais bon. Ah, d'abord, excuse-moi, je t'ai dit bonjour, j'ai même pas annoncé, c'était Joe qui nous chantait le blues. Voilà. Alors maintenant, nous sommes avec Louise Véronique Sicotte. Et puis là, alors par lequel commençons-nous? Est-ce qu'on commence par le documentaire?
Oui, commençons par le documentaire, bien sûr. Oui.
Alors, voilà. Alors,
Soigner l'esprit de Catherine Mullins.
Oui.
Mullins, oui.
On l'a dit comme ça quand on l'a annoncé. Enfin, Mullins, moi j'ai dit.
Mullins,
j'ai
oui.
peut-être prononcé un petit peu plus à la française, mais...
C'est un documentaire, bon, comme le titre l'indique, c'est sur les gens qui ont des problèmes de santé mentale et tout le traitement qu'on leur donne, le traitement de la médication...
Trop importante.
Pour aller à l'hôpital psychiatrique et tout. Donc, c'est toute cette approche-là médicamentée
oui.
qui est remise en question. En tout cas, qui soulève une réflexion.
On dirait même presque trop médicamentée.
Ouais, surmédicamentée. Ouais. Oui, oui, c'est ça. En fait, la réalisatrice se penche sur ce sujet-là parce que son fils est atteint de problèmes de santé mentale.
Ah, OK.
Et par, culpabilité qu'elle a décidé de faire une démarche parce qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir protégé son fils d'avoir eu trop de médicaments. Alors, elle s'est mise à réfléchir à ce sujet et en se disant, ben peut-être qu'il y a d'autres approches. Pourquoi on donne tant de médicaments à des gens qui souffrent de maladies mentales. Alors, le film se divise en fait en deux. Il y a deux volets. Il y a le volet humain où elle suit deux personnes qui vivent ce genre de problème-là et qui sont en voie de guérison. Et il y a aussi le volet des experts, de toutes les personnes qu'elle interviewe qui sont en première ligne dans cette réflexion-là. Alors, commençons peut-être par les deux intervenants, enfin, les deux participants
oui.
à ce documentaire. Il y a Myriam Anouk, qui est la fille de la poétesse Jeannot Saint-Denis.
Ah, OK.
Alors, peut-être que ça dit quelque chose
oui.
aux gens. Jeannot Saint-Denis est une poétesse qui est décédée maintenant, mais moi que j'ai eu la chance de connaître il y a plusieurs années. Alors, c'est la fille de Jeannot Saint-Denis, Myriam, qui, elle, dès le départ, on la voit... Elle nous dit clairement qu'elle a entendu des voix pendant très longtemps
oui.
et qu'elle a été une période de dépression, elle a été plurimédicamentée et puis qu'elle a vraiment fait tout un cheminement pour réduire ses médications, pour être mieux dans sa peau. La psychothérapie l'a beaucoup aidée. Et elle est vraiment, on sent tout un cheminement très long et très complexe de sa vie à travers les années de difficultés. Et là, elle a une sorte de presque de sérénité, en tout cas de mieux-être qui est beau à voir. Et également, on va suivre parallèlement à son cheminement celui de Allo. Allo Asimov, qui est un jeune humoriste anglophone. Il a 25 ans. Lui, évidemment, aussi, il est aux prises avec un problème de bipolarité. Et il en parle très ouvertement dans ses interventions humoristiques quand il est stand-up comique sur la scène. Alors, oui. Pour lui, c'est très thérapeutique d'en parler. Et donc, on suit ces deux personnes-là, qui sont tout à fait très attachantes. Et c'est bien parce que on peut s'identifier à ces personnes-là, hein, dans leur quête du mieux-être.
Oui.
Et aussi leur réflexion sur pourquoi tant de médicaments.
Mais peut-être aussi qu'il y a quand même, parce qu'il peut y avoir beaucoup de malades, pas assez de soignants. Donc, des personnes qui sont en hyper... qui se sentent très mal. Donc... surmédicamentés deviennent plus calmes, voire trop calmes.
Oui.
Et il doit certainement y avoir de ça aussi, même si c'est horrible à dire, mais...
Mais de soigner les crises, hein?
Ben oui, voilà, quand il y a des crises, mais en même temps, parler à l'autre, essayer de le faire parler, de le comprendre, c'est merveilleux, c'est bénéfique, et ça prend du temps.
Oui,
et il faut du personnel, et il faut du monde qualifié pour ça.
Oui, mais il faut aussi réfléchir à cette approche-là. D'ailleurs, dans le film, elle interviewe des experts. On suit aussi une petite partie d'un congrès de psychiatres qui aborde cette question-là de la surmédicalisation. Mmh. Et aussi, elle va voir à travers le monde qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des courants? Est-ce qu'il y a des projets qui font qu'on a une autre approche? Et effectivement, par exemple, elle souligne un programme qui a vu le jour en Finlande et puis qui c'est vraiment un programme où les intervenants vont dans les familles, discutent avec la famille, avec le patient. Alors, il y a une approche qui est vraiment plus personnelle. On se déplace dans le milieu familial, on essaie de comprendre. Alors, ce qui fait qu'il y a un accompagnement. Alors, ce projet-là, et donc c'est des petits en Europe, là aussi, et ce qui fait que c'est une approche différente. Bien sûr, la réalisatrice, elle ne me remet pas en question, elle n'est pas contre la médication en tant que telle, mais elle sait que ça sauve des vies, mais c'est l'approche à long terme, la dépendance que les patients vont avoir par rapport à la médication.
OK. C'est à voir. Ça passe où?
Oui, bien sûr, c'est au cinéma, en cas, ça commence demain au cinéma du musée. Et
d'accord.
Il y aura aussi une période de questions-réponses avec la réalisatrice les 12 et 15 mars.
Okay.
Et je suis certaine que ça va soulever quand même beaucoup de réflexions.
Sûrement, et puis de personnes qui sont d'avis complètement différents aussi, j'en suis sûre.
Mais en fait, la réalisatrice, là, c'est pas un documentaire qui est neutre et objectif. Hein. Elle avait son point de vue et toutes les personnes interviewées, les participants, sont dans cet accord-là de surmédicalisation. En fait, je dénonce. Là,
Il faut aller le voir et puis poser des questions là-dessus, c'est le plus important.
Oui,
Louise
oui.
Véronique, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
Pour parler du film Un monde. Voilà. Donc, on part avec Roxane Bruno qui nous chante Le secret.
Ma maman pleure souvent, puis mon papa à moi, il crie tout le temps. Mais si jamais je le dis, promettez-moi de garder le secret. Mon papa à moi, des fois il est méchant avec maman. Elle me dit que c'est rien, que c'est des choses de grand, mais je le vois bien. Je suis sûre qu'elle est malheureuse, parce que mon père la traite tout le temps de niaiseuse. Tu sais, papa, moi j'ai pas peur. Je le vois dans tes yeux. T'es une brebis, pas un chasseur. T'es juste un petit peureux. Un jour, maman, je vais l'amener ailleurs. Je te souhaite d'être chanceux. Le karma, c'est un prédateur. mandataire, il va te faire payer ses bleus. Super-héros, je t'ai jamais vu sauver personne. Je vois juste ma mère qui se sauve dans son pot de Valium. Remarque, qui peut lui en vouloir, qui sait qui ferait pas pareil. Deux, trois pilules, puis quelque chose à boire. Allez, simple, au pays des merveilles. En attendant que tu reviennes avec des fleurs, puis des estis de promesses. Elle achète la paix, fait semblant de te croire. C'est vrai que t'es fort pareil. Tu sais, papa, moi j'ai pas peur. Non, je le vois dans tes yeux. T'es une brebis, pas un chasseur. T'es juste un petit peureux. Un jour, maman, je vais l'amener ailleurs. Et je te souhaite d'être chanceux. Le karma, c'est un prédateur. Il va te faire payer ses bleus. Tu te prends pour un dieu. Tu penses que t'es grand quand t'attraînes par les cheveux dans l'appartement. Tu penses que t'es fort. Tu penses imposant quand tu chiffonnes le corps de la mère de tes enfants. T'es sûr qu'elle mérite tes coups de poing, tes claques et toutes les insultes que tu lui craches d'en face. Les commères disent qu'elle en redemande parce que sa muselière est transparente. Maintenant que j'ai vieilli, que j'ai appris et que j'ai compris, tu nous aimes pas, t'es juste confortable. Puis tu te sers ta femme comme d'une poupée gonflable. Un jour, je vais être grande comme un gratte-ciel. Je vais pouvoir prendre soin d'elle. Ça fait trop longtemps que tu la crisses à terre. Ça fait trop longtemps que tu lui demandes de se taire. Tu sais, papa, moi j'ai pas peur. Non, je le vois dans tes yeux. T'es une brebis, pas un chasseur. T'es juste un petit peureux. Un jour, maman, je vais l'amener ailleurs. Et je te souhaite d'être chanceux. Le karma, c'est un prédateur. Il va te faire payer ses bleus. J'ai entendu dire que t'es pas le seul papa à être méchant. Et qu'il y a même pire, il y a des mamans qui sont pas parties à temps. Faut s'accroupir pour leur donner des fleurs, ses parents. Moi, je veux pas vieillir. Si c'est ça qu'on appelle des trucs de gras, des trucs de gras.
Alors Louise Véronique,
oui.
C'est à toi pour le deuxième film.
Oui, qui s'appelle Un monde.
Intense, on en a beaucoup entendu parler.
Pardon?
On en a beaucoup entendu parler.
Oui, je voulais en parler aussi parce que c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Un premier long métrage d'ailleurs de la réalisatrice Laura Vandel. Et d'ailleurs, Arlette, je parle de deux films réalisés par des femmes aujourd'hui.
Oui, en effet. J'avais pas fait attention.
Eh oui, c'est à l'affiche présentement au cinéma Beaubien. Ce film-là, c'est une incursion dans le milieu de l'enfance, de l'école primaire. Mais ce n'est pas l'école primaire, là, des licornes. C'est l'école primaire vraiment très réaliste, très cruelle aussi, qui peut être très difficile pour les enfants. On va suivre une petite fille tout à fait extraordinaire dans son rôle, Nora, qui entre à l'école primaire à l'âge de 6 ans et qui va être prise dans un dilemme très difficile pour une petite fille. Celle d'être fidèle à son frère, qui est intimidé, et celui de l'aider aussi. Mais elle doit garder un secret. Alors
c'est tellement difficile, un secret pareil sur les épaules d'une petite fille.
C'est beaucoup pour une petite fille.
C'est déjà difficile pour nous adultes.
Ben oui. Et c'est là qu'on découvre que le milieu de l'école est un milieu où la violence commence.
Oh mon Dieu, quelle horreur. Oui. Moi, j'aurais envie de dire que c'est la partie la plus violente de notre vie, pour certains. Que rarement on se retrouve avec une violence aussi intense.
Oui, et c'est la découverte de ces émotions-là aussi. La découverte d'un monde aussi, de clans, de pouvoirs. Et c'est ce que la réalisatrice nous démontre dans ce film, avec une mise en scène tout à fait, je dirais presque fracassante, parce que on est toujours à la hauteur de Nora. La caméra est toujours à sa hauteur. Alors, si on veut voir le visage des adultes, c'est quand les personnages adultes se penchent et sont vis-à-vis de Nora. Sinon, on a vraiment, on est dans son monde à sa hauteur. Et on a souvent oublié, là, quand on est adulte, une fois adulte, mais qu'est-ce que les enfants voient? Une enfant de 6 ans. Alors, on est dans le regard de Nora constamment. Et tout se joue à l'école. Donc, tout est concentré dans la cour d'école, la cafétéria, les classes. Et puis, il y a aussi un aspect très, très, très original, c'est qu'il n'y a aucune musique. Mais les sons prennent toute leur importance parce que dans la cour d'école, il y a énormément de bruit. C'est là qu'on réalise que les bruits peuvent être agressants aussi. Les enfants crient leur joie, mais ils crient aussi leur espace. Parce que, comme c'est tourné en Belgique, on constate qu'en Belgique, les cours de récréation, la grande partie de l'espace est occupée par les terrains de foot. Alors, pour ceux et celles qui ne jouent pas au foot, ben, il y a très peu d'espace qui leur est réservé. Ce qui fait que ça devient, en fait, un espace où on doit se battre pour avoir son espace. Et oui. Aussi appartenir à son clan, se faire une place parmi les autres. Oui. Alors, c'est ce qu'elle touche, cette réalisatrice. Et je dois dire que la trouvaille, c'est vraiment la jeune Maya van der Beek qu'elle a trouvée dans un casting d'une centaine d'enfants. Mais ce qu'il a peut-être décidé à choisir cet enfant, c'est quand Maya lui a dit « Moi, je veux donner toute ma force à ce film. » Alors, pour une enfant qui avait 7 ans à cette époque-là, de dire cela, eh bien, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui transparaît dans le film, c'est la force de cette petite fille. Et son frère aussi est très, 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 très fort aussi dans son rôle, très, très bien. Mais c'est aussi, cet univers-là de l'enfance qu'on a peut-être d'une certaine façon idéalisé. Bon. Oui. Mais là, non, c'est très réaliste. Et on voit aussi que l'intimidé peut devenir intimidateur.
Alors, oui. C'est... Oui, parce que lui-même, c'est un peu souvent comme ça, non? Quand on est... Oui. Quand quelqu'un a été très, très méchant ou qui nous a humiliés, on humilie quelqu'un en dessous de nous sur qui on se sent plus fort. Et c'est ce qu'il fait avec sa petite sœur?
Si. Non, c'est ce qu'il va faire avec d'autres.
C'est ce qu'il va faire avec d'autres.
Mais ça devient un cercle vicieux à ce moment-là. Parce que intimider devient intimidateur et ainsi de suite. Alors mais il y a une note d'espoir quand même dans ce film. Et elle a fait un énorme travail en amont avec les enfants. Parce que, bon, elle a tourné en peu de jours, mais il y a eu toutes des ateliers, des séries d'ateliers bien avant le tournage, ce qui fait qu'elle les a préparés aussi à oublier la caméra.
Ah ben, oui, pardon, vas-y. J'avais lu ça aussi, qu'elle les avait, qu'elle essayait de les laisser le plus innovant possible, et puis qu'elle avait même eu des fois des morceaux de texte qui étaient... fait par des enfants, enfin des réflexions qu'elle avait mis dans le film.
Oui. Mm-hmm. Pour un premier long métrage, je trouve qu'il est très maîtrisé et moi ça m'a remué aussi parce que ça m'a ramené à mon enfance et ça n'a pas été non plus toujours très
facile.
Bonieux.
Ouais.
Très heureux.
Ouais.
Ça me ramène aussi à cette étape-là.
Ah, mais ce côté méchant, quelles que soient les années passées maintenant, encore, c'est vraiment... Il y a des moments qui peuvent être parfois extrêmement difficiles.
Et
d'ailleurs... pardon, excuse-moi. Je voulais dire, et d'ailleurs, je me demandais comment elle avait fait pour pas que les enfants, aux âges qu'ils ont, soient aussi traumatisés par cette histoire. Et elle dit qu'elle leur a fait fabriquer une marionnette.
Oui.
Et qui parlait à travers ça, ce qui est excellent comme façon de faire.
Oui, de désamorcer les situations plus dramatiques dans le film, parce qu'il y en a quand même. Alors, c'est un film que moi, que je recommande aussi beaucoup, parce que c'est un œil très lucide sur l'enfance, en fait. Et de voir toujours le point de vue de l'enfant. Et ça, c'est quand même rare, là, habituellement.
C'est peut-être ce qui t'a touché le plus. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est peut-être ce qui touche le plus, justement, le regard de l'enfant, parce que les personnages des adultes sont comme un peu inexistants. Enfin, en tout cas, on les voit très peu. Et tout se passe au niveau du monde de l'enfant.
Oui.
Et on est, quelque part, obligé d'y plonger avec eux.
Absolument. Bien sûr, il y a quand même le rôle du père ou de l'enseignante. Mais les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes, en fait, avec leurs secrets, leur choix, leur bataille.
C'est bien. En tout cas, on arrive à la fin de cette entrevue. Je voulais juste dire déjà que ça devrait passer dans toutes les écoles, ce qui se fait peut-être déjà en Belgique. Où est-ce qu'on peut le voir?
C'est au cinéma Beaubien.
Au cinéma Beaubien.
Oui.
Magnifique cinéma. Allez-y et puis allez voir ce film et puis vous nous en direz. Recommandation de notre chroniqueuse Louise Véronique Sicotte. Merci beaucoup Louise Véronique d'avoir été avec nous.
Toujours un plaisir Arlette. Toujours.
Et puis ça nous fait toujours envie, quels que soient les sujets que tu trouves. Alors merci pour tout ça. À très bientôt.
À très bientôt.
Bonne soirée à toi. Merci, au revoir. Et maintenant, on part en musique. Je le dis, Avril Jansen qui chante « Attends ». C'est avec Exki.
Oui, exactement. Je l'avais Exki.
Exki. J'arrive pas à le dire. Il me trouve toujours des choses difficiles à dire, Nicolas. Je pense qu'il le fait exprès. On va se disputer la prochaine fois. Allez, vas-y, on part en musique.
I can't tell if you want me. I can't tell if you need me. I can't tell if you and let you there waiting. Est-ce que tu m'aurais souri? Je sais pas si tu m'aurais choisi. Je sais pas si tu m'entends. Étonnant comme tu m'attends. Attends, attends. I don't wanna know who you think about. What you live within, I can't live without. It's been a long time since I saw your face. Isn't mine to take, go for time to break. Living in the dark when I'm not your light. Feels like you're a scar, nothing can fade you out. Beg you to be mine, yeah that's not my type. Not my number one, so just wait in line. One day, maybe one day, I'll want you back again. Just sit and contemplate. I can't tell if you want me. I can't tell if you need me. I can't say you're choosing and let you there waiting. Est-ce que tu m'aurais souri? Je sais pas si tu m'aurais choisi. Je sais pas si tu m'entends. Étonnant comme tu m'as.
Salut, bonjour, je pense encore à toi. Alors j'écris de la musique ou n'importe quoi. Je sais plus ce que j'ai fait, tu me fais trop d'effets. Et je sais toujours pas pourquoi c'est long. Je veux t'avoir dans mon salon, je veux te voir bientôt sinon. Au minimum j'explose, arrête de prononcer non. Je veux plus le if close. T'as peut-être la tête d'une déesse, mais quand t'as tu me dis je mets ton air bête en pièce, décompresse, acquiesce. Et je te lave même tes siestes, dans tes rêves, mais qui est-ce? De colère à gentillesse, comme une ride GPS.
Jamais oublierais-tu mes détours. Est-ce que tu m'aurais souri? Je sais pas si tu m'aurais choisi. Je sais pas si tu m'entends. Étonnant comme tu m'attends. Est-ce que tu m'aurais souri? Je sais pas si tu m'aurais choisi. Je sais pas si tu m'entends. Étonnant comme tu m'as.
choisi. J'imagine que tu m'entends. Ça fait longtemps qu'on s'attend. Attends, attends.
Voilà, nous sommes à la fin de cette entrevue. Donc, merci à Erika Soucy pour les murailles dont on a parlé. Merci à Catherine Bourderon qui est recherchiste à Canal M. Merci à Louise Véronique Sicotte. Merci à Nicolas Wartmann. Et je suis arrivée au bout. Et surtout, merci à vous toutes et à vous tous qui êtes avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à demain. Au revoir. Bonne soirée.